Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Business, votre rendez-vous consacré aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux qui façonnent l'Afrique de demain. Face à l'accélération du changement climatique, l'agriculture africaine est confrontée à des défis majeurs, sécheresse, inondation, dégradation des sols et insécurité alimentaire. Dans ce contexte, une question prend de plus en plus d'importance. L'Afrique doit-elle se doter d'une véritable loi climat à l'échelle continentale? Un tel cadre juridique peut-il protéger des producteurs, encourager une agriculture plus durable, renforcer la compétitivité des filières et accélérer la transition écologique du continent? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Kamal Aberkani, expert des questions agricoles et environnementales. Avec lui, nous allons analyser les opportunités, les défis et les perspectives d'une future législation climatique au service d'une agriculture africaine plus résiliente. Monsieur Aberkani, bienvenue dans votre émission Planète Business.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, Monsieur Aberkani, pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin d'un projet de loi climat à l'échelle continentale et en quoi un tel cadre juridique serait-il déterminant pour renforcer la résilience de l'agriculture et garantir durablement la sécurité alimentaire?
Alors, bien sûr, l'Afrique, elle aurait besoin d'une loi climat qui protège la production agricole et assurer la souveraineté alimentaire pour les années qui viennent. Et ça, c'est dû vraiment au changement climatique qui a bouleversé, moi je peux dire, le secteur agricole au niveau du continent. Et lorsqu'on parle des changements climatiques, on parle des années de sécheresse, on parle des canicules de chaleur, des inondations, des perturbations climatiques, vraiment une production agricole qui a connu une augmentation des anomalies soit abiotiques ou biotiques. Alors moi je pense à un moment donné face à ces perturbations les États africains ont mis plusieurs dispositions soit pour assurer les ressources d'eau et aussi d'assurer des infrastructures afin de drainer l'eau qui est due à l'excès de précipitations et aussi aux canicules de chaleur, aux feux de forêt, les feux qui menacent l'agriculture. Alors je pense que maintenant l'appel à une législation africaine pour renforcer ces démarches qui ont été menées par les États. Il y avait beaucoup de des grandes sommes d'argent qui ont été mises afin de renforcer ça. Donc pour une protection, soit pour l'agriculteur, pour le consommateur et même pour les institutions étatiques, il va falloir, moi je peux appeler ça, c'est pas une loi, mais vraiment c'est comme des normes qui vont organiser les secteurs. Quelles sont les obligations du producteur? Quelles sont les obligations du consommateur? Alors quels sont les droits des producteurs? Quels sont les droits? Voilà, c'est pas une loi, moi je peux dire, c'est une protection à court et à long terme pour le secteur agricole. Donc je pense qu'il va falloir avoir une loi, peut-être que ce sera un peu difficile d'avoir une loi continentale dans un premier temps, mais je pense que si on a des lois climat pour chaque pays, pourquoi pas, il peut y avoir une alliance africaine via les organisations, bien sûr, qui gère le secteur agricole, le secteur économique. On parle bien de l'Union africaine, on parle aussi de la FAO, même si c'est international. Mais je pense que la loi climat est indispensable pour le futur.
Et fort d'ailleurs de cette analyse, dans une logique de responsabilité sociétale, quels seraient selon vous les droits, les devoirs et les responsabilités des agriculteurs vis-à-vis d'une future loi climat?
Alors bien sûr, dans le contexte de la responsabilité des producteurs, dans le cadre de ce futur projet de loi, bien sûr, les agriculteurs, ils ont des responsabilités vis-à-vis tout ce qui est la gestion des ressources naturelles, et on parle surtout des ressources hydriques, et aussi vis-à-vis l'environnement. Je pense que dans le cas, dans les endroits où on a des sécheresses dans le monde, dans le continent africain, par exemple au Maroc, on a vécu quelques années de sécheresse, et les ressources hydriques, ils étaient très limités. même si on a des précipitations des fois, mais je pense que le devoir de l'agriculteur est vraiment d'utiliser l'eau d'une manière durable, même s'il va avoir, il a un excédent, mais il faut qu'il utilise vraiment, il donne les besoins en termes d'irrigation pour son verger ou bien pour sa production. Donc ça, c'est une responsabilité. Même si, par exemple, le producteur, il est dans un secteur où il y a plusieurs producteurs, il faut qu'il respecte aussi les voisins et il respecte, disons, les dotations en termes d'eau. Et je pense en général aussi, l'agriculteur, il a des responsabilités vis-à-vis le climat, c'est-à-dire, voilà, il faut qu'il respecte tout ce qui est consigne pour éviter d'avoir des feux, des champs, etc., et des normes de sécurité en termes agricoles, et avoir des assurances aussi agricoles pour protéger, pour se protéger, pour protéger la production. Donc je pense, oui, bien sûr, l'agriculteur, il a des droits, voilà, qui demandent à chaque fois, soit des institutions étatiques ou, voilà, en termes de ressources, parce que l'agriculteur, il ne peut pas produire s'il n'a pas assez d'eau, il n'a pas assez de ressources. Mais je pense aussi vis-à-vis de l'environnement, même si on parle du climat, mais l'environnement aussi très important, il faut qu'il respecte aussi tout ce qui est charte d'application des pesticides et utiliser les bonnes matières actives et respecter les délais et aussi utiliser les bonnes quantités optimisées en termes d'engrais pour ne pas avoir voilà, du lessivage pour tout ce qui est engrais chimiques comme l'azote, phosphate et potassium et les autres engrais. Oui, la responsabilité. Donc, je pense que l'agriculteur aussi, il est impliqué comme acteur dans ce projet de loi qui gère le climat. Et je pense que c'est une responsabilité et un engagement. C'est vrai, les États ou bien les institutions étatiques, ils donnent tout ce qui est infrastructure pour l'agriculteur. Je pense qu'il va falloir aussi avoir un terme un respect pour l'environnement et pour le climat.
Alors, comment un projet de loi climat pourrait-il favoriser l'adoption de pratiques agricoles plus durables et contribuer à réduire d'ailleurs les effets du changement climatique sur tous les systèmes de production?
Alors oui, bien sûr, la loi climat va favoriser plus la durabilité de l'agriculture et aussi il va pousser à renforcer les bonnes pratiques agricoles durables. Par exemple, si on utilise des technologies de l'intelligence artificielle, notamment l'utilisation des capteurs d'humidité au niveau de l'irrigation. Goutte à goutte, parce qu'on sait d'après la littérature et voilà les références techniques que ces capteurs ils peuvent économiser jusqu'à 30 à 40% en termes d'eau dans le secteur voilà irrigué par le système goutte à goutte, bien sûr dépendamment des régions. Et on sait que cette technologie ça marche, mais l'agriculteur voilà il n'est pas motivé pour ce genre d'outils parce qu'il dit que c'est compliqué, etc., etc. Mais je pense que la loi climat, s'il vient et dit bah voilà, vous utilisez ce genre de capteur et voilà, on va vous donner plus de ressources hydriques par rapport à quelqu'un qui n'utilise pas cette technologie. Mais je pense à un moment donné, oui, on va donc l'agriculteur, il va se trouver dans une situation qu'il devrait utiliser cette technologie et même s'il n'a pas le savoir-faire, bah il va chercher ce savoir-faire chez des entreprises ou des prestataires ou peut-être il va s'associer dans des associations. Donc je pense que ça c'est un exemple concret. Et aussi, par exemple, l'utilisation des variétés génétiques qui utilisent moins d'eau et des variétés, voilà, qui ne vont pas perdre plus d'évapotranspiration. Je pense l'obligation de ce genre d'utilisation de ces variétés-là, oui, par cette loi, c'est-à-dire on ne sème plus au mois de mai ou juin, lorsqu'on a plus d'évapotranspiration, donc on va semer un petit peu tôt et avec un cycle court. Donc je pense à ce moment-là, on va économiser beaucoup d'eau. Et bien sûr, il y a d'autres pratiques agricoles. Par exemple, on sait qu'il y a l'utilisation des biostimulants agricoles, l'utilisation des biochars. Par exemple, le semis direct des céréales, on sait que cette technique, elle a un rôle très important pour la décarbonation. Je pense que voilà, cette loi climat en général, il va cadrer la durabilité des pratiques agricoles, voilà, pour que l'agriculture africaine soit plus résiliente au changement climatique.
Cette analyse est pertinente et également, elle m'interpelle. Pensez-vous que l'Union africaine soit en mesure de porter une législation climatique commune capable d'harmoniser, par exemple, les politiques nationales tout en répondant aux réalités des différents pays africains?
Alors ça, c'est une très bonne question, hein. C'est vrai, on peut avoir la loi climat africaine, mais dans quel cadre? Qui va prendre cette responsabilité? Est-ce que les pays africains, ils peuvent tous s'allier dans cette loi climat? Donc je pense qu'il va falloir trouver un cadre. Est-ce que c'est un cadre avec une sensibilisation? Peut-être il va avoir un engagement de tous les pays africains. Je pense avec l'Union africaine quand même, qui est une organisation très connue et qui fait un bon boulot en termes de cadrage au niveau africain. Pourquoi pas? Et il peut y avoir un département qui est dédié pour cette loi climat. Mais moi, je pense que le plus important, c'est l'engagement des pays. Parce que si un des pays ou un des États n'est pas favori pour ce genre de loi climat, je pense à un moment donné, ça sera très difficile d'unir toutes les institutions. Mais je pense que c'est une question de temps, hein. Dans toutes les lois qu'on a vues, ou bien dans tous les projets qui sont multilatérales, qui demandent plusieurs pays, je pense que ça commence avec 5-6 pays. Après, les autres, ils vont suivre. Et je pense que aussi, si jamais il y a un projet de loi climat au niveau africain, il va y avoir beaucoup de subventions internationales. Surtout, on parle du programme des Nations Unies pour les changements climatiques. On parle du financement de la Banque mondiale, etc. Je pense que si jamais il y a plusieurs pays qui vont adopter ce genre de loi climat, les autres ils vont suivre parce qu'il va y avoir plus d'avantages, parce qu'on est dans un axe, parce que l'Afrique est quand même une partie de ce monde-là. Et il va s'engager plus dans tout ce qui est question climat. Et je pense que l'Union africaine, peut-être, il peut être un très bon candidat pour gérer ce genre de loi climat, ou peut-être il va avoir d'autres organisations dans le futur.
Eh bien, toujours dans cette logique de déterminer et aussi de voir les perspectives d'une loi climat en Afrique et notamment au Maroc. C'était donc la première partie de votre émission Planète Business. Tout de suite, la minute RSE avant de revenir, bien évidemment, avec notre invité, Monsieur Kamal Aberkane.
À l'occasion de la fête du trône, le Maroc met en avant une nouvelle étape de son développement économique où la responsabilité sociétale occupe une place de plus en plus importante. Dans son discours du 29 juillet, le roi Mohamed VI a appelé à une mobilisation accrue des financements nationaux, en particulier au profit des petites et moyennes entreprises, afin de soutenir l'investissement, l'emploi et une croissance plus inclusive. Cette ambition s'appuie sur des résultats déjà visibles. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain du Maroc a atteint 0,710, permettant au Royaume d'intégrer la catégorie des pays à développement humain élevé. Cette progression reflète les efforts engagés dans les domaines de la santé, de l'éducation et des conditions de vie. Sur le plan environnemental, le Maroc poursuit également sa transition énergétique. Le pays vise à porter la part des énergies renouvelables à 52% de sa capacité électrique installée, un objectif qui place la décarbonation au cœur de sa stratégie de développement durable. La RSE, ce n'est donc plus seulement protéger l'environnement, c'est aussi investir dans le capital humain, favoriser une croissance inclusive et renforcer la gouvernance des entreprises pour créer une économie plus résiliente.
De retour avec notre invité, Kamel Aberkane, expert bien évidemment en environnement. Monsieur Aberkane, toujours dans la dynamique de notre échange, bien évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Union africaine, avec aussi les mesures qui sont dans l'optique de porter une législation climatique commune. Maintenant, la décarbonation du secteur agricole peut-elle, elle, devenir un levier majeur de compétitivité, d'innovation, mais aussi de création de valeur grâce à un futur cadre législatif continental sur le climat?
Alors oui, bien sûr, la décarbonation, je pense que c'est un très bon exemple pour la loi climat. Si jamais, parce que normalement, comme vous savez que la décarbonation maintenant, il va être une obligation pour tous les pays du monde et voilà, l'empreinte carbone dans le produit agricole est indispensable. Maintenant, c'est vrai, les pays africains, ils font beaucoup d'exports des fruits et légumes pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie, mais je pense que les émissions à gaz à effet de serre, maintenant, c'est une obligation. Je pense que ça, c'est un très bon exemple, comme je disais, la décarbonation. Il va renforcer cette loi climat et c'est-à-dire on va produire avec une meilleure des bonnes pratiques agricoles qui utilisent moins le carbone, qui utilisent des énergies renouvelables, qui utilisent moins de pollution, etc. C'est vrai, maintenant on a vu d'autres pays, c'est vrai, industrialisés qui polluent plus. On dit que c'est vrai, l'Afrique, il pollue moins. Mais je pense que le secteur agricole, quand même, d'après les sources scientifiques, l'agriculture, il contribue beaucoup dans la pollution atmosphérique en gaz à effet de serre, surtout en termes de CO2, etc., de méthane, etc. Je pense que la décarbonation, je pense qu'il va y avoir une loi internationale qui va gérer la loi africaine pour la décarbonation. Je pense qu'elle est déjà cadrée. L'Afrique est obligée, hein. Si jamais ils veulent exporter, bah, il y a pas de respect pour la décarbonation, bah, ils ne peuvent pas exporter. Je pense que ce cadrage international de la décarbonation va aider à cadrer la loi continentale qui gère la décarbonation et vraiment qui a un lien aussi avec le climat africain.
Et quel rôle d'ailleurs le numérique pourrait-il jouer, à votre avis, dans la mise en œuvre, le suivi et l'efficacité d'une loi climat en Afrique?
Alors oui, bien sûr, le numérique et le digital, il aura un rôle très important et primordial pour cadrer la loi climat. Parce que déjà, s'il y a des projets de loi, il y a des restrictions, il y a des normes climatiques reliées au secteur agricole, je pense que le numérique, il est là pour enregistrer, aussi pour faire le diagnostic des situations, des cas, pour voir est-ce que ces institutions et les agriculteurs et les parties prenantes qui sont impliquées dans l'agriculture africaine, si vraiment ils suivent vraiment les instructions ou pas. Et je vais donner un exemple. Par exemple, le zonage agricole, c'est-à-dire si vraiment il y a une interdiction dans une zone où on a plus de risques d'inondation, mais les agriculteurs ou bien les gens qui gèrent les provinces ou les systèmes de production, ils ne respectent pas, bah, le numérique, il est là pour faire l'inspection et pour dire, voilà, on n'a pas de respect pour ce genre de loi de climat. Des fois, le numérique, il va cadrer parce qu'on sait que maintenant, il y a plusieurs modèles mathématiques ou des modèles climatiques dans le monde. C'est vrai, en Afrique, selon la littérature scientifique et technique, on a moins de data en termes climat, atmosphère, relations atmosphère, plantes, sol, etc. Comme les autres pays, comme l'Europe et les pays occidentaux et l'Amérique et l'Asie. Je pense qu'il va falloir, il nous faudra plus de data. Et je pense que le numérique, il va nous aider à faire ce diagnostic et à enregistrer ces données-là et à enregistrer ces cas-là. Et il va être un très, très bon outil, pas que pour faire le diagnostic ou de dire qu'est-ce qui se passe au niveau terrain, mais aussi pour avoir des scénarios climatiques, c'est-à-dire on a une année sec, sèche, c'est pas comme une année humide, vraiment dans un pays, le nord est différent que le sud. Je pense que ce modèle numérique qui peut être inséré dans l'intelligence artificielle aussi, il peut faire des scénarios, des optimisations, des estimations de production, etc., dans un cadre de changement climatique. On l'a vu cette année, par exemple, au Maroc, avec les céréales. C'est vrai, il y avait on attendait à avoir un petit peu plus de production, mais finalement, on a eu un petit peu moins parce qu'on a eu du feu, on a eu des. La production réelle n'était pas comme la production estimée, mais je pense que dans le cadre de la régionalisation, ces modèles climatiques, ils vont nous approcher vraiment de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans le terrain, surtout l'utilisation des images satellites qui peuvent faire un diagnostic assez précis des types de cultures, de production, etc.
Et justement, comment d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, les agriculteurs, les coopératives, les entreprises agroalimentaires, bien sûr, les investisseurs pourraient-ils tirer parti d'un tel projet de loi pour développer une agriculture plus durable, plus inclusive, mais aussi plus résiliente?
Oui, bien sûr, les coopératives, les agriculteurs, les autres institutions, qui sont impliquées dans le domaine agricole africain. Ils vont être impliqués dans ce projet de loi climat parce qu'ils vont s'aligner avec les normes, etc. Mais en même temps, ils vont tirer profit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour les agriculteurs, c'est vrai, ils ont des droits, mais ils ont aussi des obligations. Je pense si jamais tout le monde il s'aligne dans le cadre de loi climat, bah, il y a une protection pour ces entreprises et pour cette chaîne de valeur agricole ou agroalimentaire. On parle de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du semis jusqu'à l'assiette du consommateur. Je pense que tout ce processus-là, il y a plusieurs intervenants. Comme je disais tout à l'heure, il y a des compagnies, des coopératives, des parties prenantes, des gens qui prennent des décisions, des intermédiaires, des compagnies. Je pense que, à long terme, cette loi de climat, elle n'est pas là pour pénaliser, elle est là pour gérer et pour donner une feuille de route de production à long terme. Malgré les perturbations climatiques et aussi, je veux soulever un autre point qui est très important, les perturbations géoéconomiques. Donc, c'est vraiment la loi du climat, il va venir ici pour stabiliser ces intervenants et c'est comme une genre d'assurance pour eux, de savoir quels sont si le cadre de réglementation est respecté, bah, à un moment donné, il va avoir une garantie de subsistance de ces intervenants sur le marché malgré les perturbations climatiques. Alors, je pense qu'il y a un intérêt vraiment win-win entre ces intervenants et avec la loi climat.
La question lancée donc qui m'est permis de vous poser, c'est selon vous, Monsieur Abercani, comment les principes de la responsabilité sociétale des entreprises dans son essence première peuvent-ils plutôt s'articuler avec une future loi climat afin d'accélérer la transition écologique du secteur agricole africain?
Alors, la responsabilité sociale des entreprises ou la RSE, vraiment avec la loi climat, je pense qu'ils vont être sur la même longueur d'onde. C'est vrai, maintenant, parler de la responsabilité sociale, mais c'est juste je pense que c'est une responsabilité, mais il n'y a pas d'obligation. C'est comme une sensibilisation, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Même si on ne le fait pas, ben, on n'a pas de restriction. Mais je pense que le jour que la loi y va venir, ce n'est plus une responsabilité, c'est une obligation. Mais je pense que les deux, la responsabilité sociale des entreprises, je pense qu'il va gagner beaucoup, beaucoup de ce projet de loi climat au niveau continental et au niveau, bien sûr, au niveau africain. Et toutes les entreprises, même si on va trouver, par exemple, dans un pays ou dans une région, on a 20% juste des entreprises qui font de la responsabilité sociale des entreprises. Mais le jour qu'il va voir la loi climat, bah, je pense que tout le monde, ils devront s'impliquer. Là, on va parler de 100% des entreprises. Donc, je pense, comme je disais, la RSE est une composante très importante de la loi. Et la loi climat, il va renforcer que les entreprises, ils vont s'insérer dans la responsabilité sociale des entreprises. Et bien sûr, comme tout à l'heure, j'ai parlé du point de est-ce que ces entreprises ils vont tirer profit de cette loi climat? Bien sûr, c'est la responsabilité des entreprises, la RSE, il va renforcer ces entreprises ou bien il va les guider mieux à gérer une situation, une agriculture durable et avec toutes les intervenants. Je pense, bien sûr, pour faire un petit tour, la responsabilité sociale des entreprises, la décarbonation, le numérique, les enjeux, la résilience et la recherche aussi. C'est un point important, peut-être qu'on n'a pas soulevé. La recherche scientifique, il va avoir un rôle très important. C'est le noyau de toutes ces composantes-là. Et il ne faut pas oublier aussi les perturbations géoéconomiques qu'on a eues durant les dernières années et avec le Hormuz dans ces jours-là, qui a quand même, je pense, qu'il y a eu un effet sur l'impact du changement climatique. Parce que c'est vrai, les changements climatiques, ils ont perturbé le mécanisme, si je me permets d'utiliser le terme, le mécanisme de défense de l'agriculture face au changement climatique, mais même si on a eu des pluies, les conditions climatiques, elles étaient favorables, mais je pense que la situation géoéconomique et géopolitique, ça peut perturber et affaiblir cette humanité agricole face aux, 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 voilà, face aux, aux perturbations climatiques, mais je pense que cette loi climat, il va être comme un genre de voilà de protection de l'agriculture africaine pour, contre ce problème géoéconomique, parce qu'il faut savoir que les intrants agricoles, ils viennent de l'industrie. Si jamais on a des perturbations économiques, ben on va là, on parle pas de climat, ben on parle plus des intrants agricoles. Il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus de pesticides, il y a perturbations dans le marché. Donc il n'y a pas que le climat qui est un facteur limitant. Et pour conclure, vraiment, il y a d'autres composantes. Peut-être à un moment donné, il va falloir voir une composante ou une loi géoéconomique africaine qui gère la situation économique malgré que ces perturbations ils sont hors le continent africain. Merci.
Merci Kamal Aberkani pour votre analyse et pour la qualité de vos éclairages.
Merci à vous, monsieur. Bonne journée.
À travers cet échange, une conviction d'ailleurs se dégage face aux défis climatiques. L'Afrique ne peut plus se contenter de subir. Une future loi climat continentale pourrait donc devenir un véritable moteur de transformation, de conciliation, de protection de l'environnement, de sécurité alimentaire, d'innovation, de compétitivité, mais surtout de responsabilité sociétale. La transition écologique de l'agriculture africaine sera l'affaire des États, des agriculteurs, des entreprises, mais aussi des investisseurs. Mais au-delà de cela, c'est ensemble que pourront être bâtis des systèmes agricoles plus durables, plus inclusifs et plus résilients. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition Planète Business, le magazine qui décrypte les grands enjeux de l'économie durable, de la RSE en Afrique et dans le monde à travers votre podcast Planète Business. Au plaisir et à la prochaine.